Je ne comprends pas, cette fichue radio fonctionnait très bien il y a 2 secondes et maintenant je n'en tire plus rien du tout.
Radio Campus 88.3.
Remarquez, ça vient peut-être de l'antenne, tout ça.
Une expérience qui fera date dans les annales de la radio.
La population orléanaise écoute le 88.3 FM.
C'est stupide, voilà, maintenant je bloque.
La guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours déclenché. Au palais de la
Sécurité. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuites.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition d'Abattant Campus sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours. Cette émission sera consacrée au décryptage du mensuel du monde diplomatique avec les amis du monde diplomatique d'Orléans. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Nous sommes que 3 dans le studio, Victor également est là.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Victor.
Bonsoir à toutes et à tous.
Pour parler de cette édition du diplôme de septembre, Henri. Hein,
qui oui, est toujours, nos camarades nous manquent. Comme,
mais oui, mais on les salue.
Et soir, on les reverra avec plaisir bientôt.
Évidemment qu'on les retrouvera. Ils sont en vacances peut-être encore.
On va savoir.
Bon, on va savoir. Cette édition, je disais, donc cette nouvelle édition en septembre du diplôme, article riche, on le répétera jamais assez. On parlera, nous parlera tout à l'heure du dossier qui est consacré au Proche-Orient, mais juste avant, Victor nous parlera de 2 articles. Mmh. Un article sur les élections présidentielles aux États-Unis.
C'est ça.
Donald Trump peut-il prendre sa revanche? Et puis un autre sur
le panafricanisme.
Mais avant tout ça, on va faire le sommaire de cette édition.
Oui.
Henri.
Oui, bien sûr. Ce diplôme, tu viens de le dire. Il est riche. Il est riche, comme chaque diplôme de chaque mois. Mais je vous invite à le lire si vous voulez me contredire, après tout.
Mais il faut absolument y aller. Hein.
Voilà. Et d'ailleurs, on n'a pas eu d'émission en août. Et il y avait un diplôme également très riche et intéressant au mois d'août qui nous a parlé de cette situation politique franco-française. On n'avait plus de Premier ministre. Et c'est vrai qu'il y avait un dessin assez amusant dans le monde d'aujourd'hui. C'est 2 généraux algériens qui disent, et quand on pense qu'il y en a qui mettent 7 mois à trouver un premier ministre.
Sérieusement.
Eux, t'as vu, ils ont fait 99,5% aux élections. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on fait des élections. Mais bon, bref.
Pourquoi?
Voilà. Tandis que nous, voilà, il y a eu du suspense. Tout ça pour arriver à Michel Barnier. Alors là. peu importe son âge, certains en ont ri, mais bon, alors là, c'est assez.
Le problème, c'est pas tellement son âge, c'est surtout ses positions.
Ses positions, et puis ça fait. On a l'impression de voir du RPR, du RPR qui n'est pas dépoussiéré.
Mais première saison même, RPR première saison. Mais le truc, c'est que j'ai discuté avec les jeunes en arrivant à la radio. Mais il y en a plein qui ne le connaissent pas. Enfin, ils ne savent même pas qui c'est, qui ont vu à la télé, qui ont vu le nom. Ils ne savaient même pas qu'il existait.
Moi, avant sa nomination, je ne le connaissais pas.
Non plus.
Non. Alors, évidemment, il y a le quidam qui a confondu ça avec l'humoriste Michel Bernier. quand même. Remarque, avec si elle avait encore son père, le professeur Choron, lui aurait peut-être donné quelques idées. mais bon, voilà. Donc, à lire au mois d'août, vous pouvez lire ce diplôme du mois d'août, qui est également intéressant, qui parle de cette politique française bien chahutée. Je vais le dire tout de suite, comme ça m'évitera de l'oublier. Le diplôme sort un hors-série,
oui.
Manuel d'autodéfense intellectuelle. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé ce hors-série pour combattre un certain nombre d'idées préconçues, comme quoi, par exemple, les extrêmes se rejoignent. Et c'est comme à chaque fois avec le diplôme, c'est très approfondi. Ils se sont évidemment, ils ont demandé le concours d'historiens, de chercheurs en sciences sociales. Et donc, ça leur permet de relancer le débat sur des idées finalement qu'on nous fait passer qu'on teste même plus. On prend ça pour des axiomes qui sont vraiment indéracinables. Et donc, très intéressant, je pense, de lire ce numéro spécial, ce manuel d'autodéfense intellectuelle, qui sera en vente bientôt, à partir du 12 septembre.
Très bien.
Ça va être intéressant à lire, et on en reparlera sans doute. Dans ce diplôme, extrêmement riche, comme nous le disions, il y a des articles que Victor va présenter. Il y a aussi ce petit article, petit parce qu'il ne tient qu'une page, pas petit par l'importance, c'est « Le sabotage est-il efficace ?»
Oui,
parce qu'avant les Jeux, avant cette grande messe médiatique, avec qui il y a eu de beaux aspects aussi, qui au moins nous a fait comprendre ce que pouvait être l'handicap.
Oui,
je suis allé au Stade de France voir les épreuves d'athlétisme. Ces gens-là sont remarquables par la performance qu'ils sont capables de faire avec ou malgré, si on peut dire, leur handicap.
Mais clairement,
c'est assez bluffant. Hein.
Moi, j'ai découvert le cécifoot à l'occasion de ces Olympiades. Et très rarement du sport m'a mis autant d'émotions que cette finale gagnée par l'équipe de France.
Ah oui, on s'est intéressé à ce match en finale.
Tout à fait.
Alors on va nous dire qu'on s'est intéressé qu'en finale.
Ben oui, on va nous dire ça, c'est vrai. Après, Moi, je découvrais.
Moi, j'avais jamais remarqué qu'à Décathlon, ils pouvaient vendre des ballons avec des clochettes. Après, quand on voit le jeu de Mbappé en ce moment, ce sera peut-être la solution.
Nous sommes d'accord.
Il faudrait qu'il lui redire où sont les montants et la barre transversale des buts pour qu'il arrive à cadrer ses tirs. Enfin bref, voilà, on va arrêter sur cet aspect du foot. Et il y a un article intéressant dans ce diplôme, au tout début du diplôme, c'est « Le sabotage est-il efficace ?» Et il y a un sous-titre qui est assez parlant également, « Utilisez votre jugement à l'action directe ». C'est un article de Dominique Pinsol qui donc s'est saisi de ces sabotages de câbles, également autour de voies de la SNCF, enfin bref, qui ont perturbé le trafic. Et il explique que c'est un mouvement qui est très ancien et que notamment qu'il y a eu un certain nombre d'échos aux États-Unis. Au début, dans les années 1910, il nous parle donc d'un syndicat, l'Industrial Workers of the World, IWW, qui est un syndicat qui est passé au sabotage. Alors, pas le sabotage à faire exploser des choses et éventuellement, malheureusement, à tuer des gens, mais c'est le fait de travailler, mais de travailler mal.
Oui, c'est ça.
Vous allez me dire, il y en a plein qui sabotent sans le savoir. Ça, c'est autre chose. Mais c'est l'idée. Et donc, voilà.
Mais ça part d'une stratégie à la base qui a été élaborée par la CIA pendant la Seconde Seconde Guerre mondiale, en fait, où du coup ils avaient encouragé les personnes qui travaillaient dans l'administration française, en fait, à faire du sabotage, c'est-à-dire à essayer de travailler le moins efficacement possible pour faire perdre le plus de temps possible à l'occupant.
D'accord.
Oui, y compris dans les usines en Allemagne.
Dans les usines,
pour fabriquer
dans
des armements, des bombes,
ou bien
des choses comme ça.
Dans les trains de la SNCF, etc. Et tout. Ouais, c'est...
Voilà. Donc, aux États-Unis, ils ont développé ce concept, c'est-à-dire que, ils se sont heurtés, nous dit Dominique Pinsol dans son article, à certaines limites du sabotage. En France, c'est une idée qui avait été développée également par l'anarchiste Émile Pouget,
c'est ça.
Qu'il a introduit à la CGT en 1897. Mmh. Et donc, comme je vous le disais, c'est mettre la pression sur le patron en travaillant mal. Mmh. Donc, aux États-Unis, les Wobbies, comme je l'expliquais à l'instant, ont utilisé cette chose-là parce qu'ils se sont dit, mais les piquets de grève ne suffisent pas. Ils avaient notamment, à un moment donné, deux des leurs qui avaient été incarcérés. Et ils voulaient les faire libérer. Et ils se sont aperçus que les piquets de grève ne suffisant pas, ils sont passés au sabotage. Ils ont donc lancé une campagne internationale de boycott des produits agricoles californiens et pour nuire au développement de leur propre entreprise. Alors, peu à peu, ils ont perdu les soutiens politiques et syndicalistes qu'ils avaient. C'était pourtant un syndicat qui, dans les années 1915-1920, avait plus de 100 000 membres. Et je parlais de limites. Il y a quand même certains qui ont pu obtenir gain de cause. C'est des bûcherons grévistes aux USA qui ont donc choisi ce fait de travailler mal. Mmh. Et ils appelaient ça la grève dans le travail.
Dans le travail.
Donc c'était un concept assez intéressant. Et puis après la guerre est arrivée, les États-Unis se sont engagés dans la Première Guerre mondiale. Et donc ils ont été tout de suite poursuivis, évidemment, pour nuisance à l'effort de guerre, et ils ont été condamnés, et après ils ont cessé d'utiliser ce type d'opération. Alors après, le lien n'est pas forcément très dense avec les sabotages qui ont été commis en France, mais c'est une explication historique qui est très intéressante, et encore une fois un éclairage
tout à fait
pertinent
tout à fait
du monde diplomatique. Donc dans ce diplôme...
Une seconde, petit point culture, est-ce que vous savez d'où vient le terme sabotage ? Je l'ai appris dans l'émission Carambolage sur Arte, qui est une super émission, je vous la conseille.
Qui est pas mal.
Ce qui est vraiment bien. Mmh. Et en gros, c'est à l'apparition des premières machines agricoles mécaniques, qui du coup allaient mettre toute une partie de la paysannerie française au chômage, en fait, pour détruire les machines. En fait, ils prenaient leurs sabots et les jetaient à l'intérieur de l'endroit où était reçu le grain. Du coup, ça coinçait les machines et elles arrêtaient de fonctionner. Mmh. Et en fait, c'est pour ça vient du sabot, la chaussure en bois que portaient les paysans de l'époque. Et du coup, c'est devenu le sabotage.
Ok, merci pour cette explication, mais c'est bien d'apprendre ça.
Donc, dans ce diplôme, il y a des articles de politique internationale, on y reviendra. Le dossier que je présenterai sur le Proche-Orient. Quelques articles sur notamment en Allemagne, où il vient d'avoir des élections, où malheureusement l'AFD a gagné des postes politiques. Maintenant que nous, en France, M. Barnier va gouverner avec le RN, eh bien, restons vigilants. Et donc, dans ce diplôme, plein d'articles que je n'ai pas tous lus, mais que je vous invite à lire, qui sont extrêmement intéressants. Mais je vais laisser la parole à Victor.
Bien sûr, juste après un peu de musique. J'avais oublié de dire également que je vais, à la fin de l'émission, présenter l'éditorial qui est une prise de position du président Emmanuel Macron sur le conflit du Sahara occidental, qui est un conflit qui dure depuis les années 70. Et Emmanuel Macron, comme on le connaît, vous savez, monsieur disruptif, il a... Mais on va passer un peu de musique avant de te donner la parole, cher Victor, avec Massilia Sound System, c'est toi qui nous l'a amené.
Pas d'arrangement.
C'est ça,
pas d'arrangement. C'est un groupe marseillais. Écoutez bien les paroles, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on oserait dire à monsieur Barnier, pas d'arrangement. Pas d'arrangement avec l'extrême droite.
Absolument.
Mais
c'est du raga occitan.
Rejoignez les vivants.
C'est ça, oui. Rejoignez les vivants. Radio Campus qui fêtait ses 30 ans, on a beaucoup passé du raga occitan. Massilia Sound System, 1984, la création, et celui-ci, ce morceau, en
1994. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Avec les pépounas, avec les amboucans, avec les fatigants,
y'a pas d'arrangement.
Avec les trous du cul qui cachent leur accent, avec les Frenchimans,
y'a pas d'arrangement.
Avec tous les cravatés qui se font du beurre en abusant les gens,
y'a pas d'arrangement.
Ceux qui parlent toujours de race supérieure, qu'ils soient noirs ou blancs,
y'a pas d'arrangement. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Où tu fais le monde, où tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Le producteur nous dit, il faut un tube maintenant. C'est marqué dans le contrat, Massilia, je perds de l'argent. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai soudoyé des tas de gens. J'ai acheté les radios, les télés, les journaux. Et pourtant, j'ai toujours pas de feedback, j'ai toujours pas de rendement. Faites un truc commercial, les 100% dans le vent. Je ne vous le dirai plus, bougez-vous le cul, les enfants. La réponse, c'est bon, il n'y a pas d'arrangement.
Non, 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 d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Où tu fais le mort, où tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Pour tomber les petits, pour jouer les galants. Au raga ballet, il n'y a pas d'arrangement.
En ligue de champion ou à l'entraînement. Pour la mettre au fond,
y'a pas d'arrangement.
Pour rencontrer des gens, parler pendant des heures dans la rue, le quartier,
y'a pas d'arrangement.
Pour avoir des idées, rendre la vie meilleure partout dans ta cité,
y'a pas d'arrangement.
Non, 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 d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement.
Où tu fais le mort, où tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Vas-y, Mino, que la Yoli soit avec toi. Plus tu te boulègues et plus tu te boulègueras. Pas de petit profil. Non, 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 pas de petits combats. Si tu hésites, les connons n'hésiteront pas.
C'est un conseil pour les petits et les grands. C'est une idée qu'on a mûrie pendant longtemps. Quand ça te plaît pas, il faut prendre les devants. Et savoir dire non, il n'y a pas d'arrangement.
Non, 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 d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Où tu fais le mort, où tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Non, 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 d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement.
Où tu fais le mort, où tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant.
Non, 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 d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement.
Abattons rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
Je me suis fait avoir par la fin de cette chanson. L'album, hein, il faut le rappeler, s'appelle Hollywood. Il est toujours en vente, hein, paraît-il. Est-ce qu'on m'entend bien ? Bonjour Erwan qui arrive nous voir. Bah, peut-être que. Oui, je me suis fait avoir. T'as vu ? Alors, Abattons rompu sur Radio Campus Orléans, Radio Campus Tours. Nous passons maintenant à l'article Victor sur l'élection présidentielle américaine. Ce soir, cette nuit, à 3h, il y aura le débat entre les deux candidats, Donald Trump et Kamala Harris. L'irruption de Madame Harris, dit le début de l'article de Serge Halimi, dans la campagne présidentielle, ne garantit pas pour autant l'échec de son rival républicain. Il est toujours aussi fort dans les sondages. Qu'est-ce qui fait que Donald Trump est aussi fort dans les sondages ? L'article l'explique. Et le titre de l'article, c'est « Donald Trump prendra-t-il sa revanche ?»
Oui, 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 c'est un article de Serge Halimi, je ne sais plus s'il est éditorialiste ou directeur du journal.
Il est directeur du journal, je ne sais pas, il y était encore l'année dernière, mais il est directeur.
Ok.
Allez, on va dire ça.
Voilà qu'on ne présente plus. L'article s'ouvre sur un constat, c'est en moins d'un mois, on a eu un débat télévisé désastreux entre Biden et Trump.
Et à quel point ?
Une tentative d'assassinat. Oui, du président Donald Trump, enfin du candidat à la présidence. Petit souci
ça,
technique.
C'est l'attentat.
Oui, c'est l'attentat. Non, mais c'était pas contre lui, c'était pour tuer son oreille.
La démission de Biden et l'arrivée de Kamala Harris, du coup, en tant que candidate démocrate à la présidentielle. Comme le rappelle Serge Halimi, en fait, c'est une situation qui est un peu bizarre parce que, du coup, les républicains étaient tous derrière Donald Trump, alors qu'à l'inverse, Biden se faisait tirer dans les pattes par l'ensemble des candidats, enfin, de l'establishment démocrate. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a démissionné et que Kamala Harris a pris la
relève. Qui s'est retiré plutôt de la course à la présidence. Il se présentait pour être réélu, évidemment, mais là, il a laissé la place à sa vice-présidente.
C'est ça. Et on a eu la nomination surprise de J.D. Vance en tant que vice-président potentiel pour Donald Trump.
Lui, c'est simple, je l'adore.
Ah oui, tu m'étonnes.
Il a sorti un bouquin, je ne veux pas le lire.
Oui.
Donc c'était une campagne qui était centrée, la campagne de Donald Trump était centrée sur les électeurs blancs, pauvres, conservateurs, masculins, donc les rednecks, les travailleurs pauvres américains blancs. Il leur chantait un certain nombre de louanges en parlant de lutte contre l'immigration, de réindustrialisation, d'America First et d'anti-interventionnisme au niveau international. Et il avait aussi tout un discours limite apocalyptique en fait sur la fin du rêve américain, sur la fin des États-Unis tels qu'on les connaît, etc. et tout, qui serait mis à mal par l'idéologie transgenre, les woke, les démocrates, etc. et tout. L'ensemble des propositions de Donald Trump peut être trouvé dans le projet 2025 qui a été établi par un think tank ultra conservateur, la Heritage Foundation. Et c'est un brûlot xénophobe, sexiste et transphobe. Donc voilà, je ne vous conseille pas d'aller le lire.
Ah, j'ai vu un résumé, mais non, mais n'allez pas le lire. Voilà.
J.D. Vance, donc on va revenir dessus, le vice-présidentiable de Donald Trump et son ombre conservatrice. C'est un catholique intégriste qui mène un combat contre l'avortement, contre le mariage gay et contre les personnes d'origine, enfin contre les personnes transsexuelles ou transgenres. Et c'est assez particulier parce que
transgenre, Victor, on dit transgenre, pas transsexuel. Attention.
Oui, exact.
Merci Erwan.
Parce qu'on est censuré maintenant.
Oui,
t'aurais pu le prévenir.
L'oreille de Moscou est derrière.
L'oreille de Trump.
Oui, c'est ça.
Enfin, l'autre. Celle qui n'est pas blessée.
C'est ça.
La particularité aussi de Donald Trump lors de cette élection, c'est qu'il a noté le soutien indéfectible qu'il avait auprès de dirigeants de un peu forts, j'ai envie de dire, de nations étrangères, notamment Poutine, Xi Jinping, et même le président de la Corée du Nord, Kim Jong-un.
Oui.
Il a souligné ça comme un atout, du coup, soi-disant pour préserver la paix mondiale, en expliquant qu'il avait de bonnes relations avec les dictateurs en tout genre, et que cela permettrait aux États-Unis de pouvoir se retirer de son rôle de gendarme international pour pouvoir se concentrer sur les États-Unis en eux-mêmes.
Il a dit que s'il revenait, il réglait la guerre en Ukraine en deux jours.
C'est ça.
Poutine a fait une déclaration il y a deux jours où il dit qu'il soutient Kamala Harris. Alors, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est pour lui mettre.
Je ne sais pas. Après, Poutine a financé à coups de millions des influenceurs et des journalistes américains conservateurs qui étaient pro-Trump. Donc,
Tout à fait.
Oui, je pense que Poutine s'en amuse de tout ça.
Je pense.
Et il a dû se dire, tiens, je vais soutenir.
Je vais foutre le bordel.
Pour mettre le bordel. Et c'est réussi, il en est capable, ça, c'est sûr.
Mais par contre, soutenu.
Comme le disait Victor à l'instant, pardon, ce qui est cocasse, c'est que Kim Jong-un, donc, effectivement, s'entend bien, enfin, façon de parler, avec Trump. Trump est donc soutenu par un communiste.
Oui, mais.
C'est assez cocasse.
Je sais pas ce qu'il y a dans la tête de ce type, je crois qu'il n'y a rien, en fait.
C'est pour ça qu'ils ont visé la tête.
Mais oui, c'est ça le truc.
Normalement, la balle aurait dû ressortir facilement.
Ben oui, mais qu'il accepte le soutien de Poutine et de Kim Jong-un, surtout Kim Jong-un, enfin voilà quoi, mais bon. Mais il a ce soutien-là.
Et oui. Par contre, il y a un petit problème pour Trump dans la campagne, c'est qu'en fait, il y a un bilan qui est plutôt positif de Biden sur le plan économique.
Mais oui.
Il a démarré un plan de relance de 1900 milliards de dollars plus 1000 milliards de dollars pour les infrastructures. Mmh. Et globalement, la classe populaire américaine et la classe moyenne américaine s'en sortent mieux sous Biden qu'elle ne l'a été sous Trump.
Mais clairement.
D'ailleurs, Trump ne sait pas trop quoi en faire de ça, parce que à la base, les thèmes de la réindustrialisation et de America First, c'était son logo, quoi.
Oui, oui, oui.
Du coup, il fustige à l'inverse l'inflation et la dette, ce qui sont des thèmes sur lesquels les conservateurs n'ont pas trop l'habitude d'aller. Mmh. Donc voilà. Et du coup, par contre, il s'attaque au bilan international de Biden en expliquant que voilà, sous Biden, il y a eu une recrudescence des conflits internationaux, etc. et tout. Et que lui, à l'inverse, en tant que Trump, si jamais il était élu président de la République, se retirerait de tous ces conflits internationaux pour se reconcentrer sur les États-Unis. Et là encore, c'est une rupture avec les néoconservateurs américains, ouais. Enfin de George W. Bush et les autres et tout, qui avaient au contraire une tendance interventionniste assez forte à l'étranger pour maintenir les intérêts des États-Unis en place.
Mais c'est un thème qui marche quand même dans certaines couches de la population américaine. Hein, l'isolationnisme des conservateurs on est d'abord américain parce qu'on est fort. Et puis alors d'entendre que au Sénat et à la Chambre des représentants on discute de milliards et de milliards à envoyer à l'Ukraine, c'est les petites gens qui souffrent trouvent ça bon. Donc ça marchait un petit peu, sauf que ça ne marche plus du tout. Ce qui est en ce moment va lui poser des problèmes, c'est sur le conflit de Gaza. Je crois que c'est dans l'article. En tout cas, ces thèmes-là ne marchent plus. C'est pour ça qu'il est coincé, Trump. Mm-hmm. En plus, comme il n'a pas grand-chose dans le cerveau, comme je disais, il mélange un peu tout ça. Et en face, il a un problème, c'est que Kamala Harris est très formée, quoi.
Oui, oui, elle connaît bien ce dossier, c'est une professionnelle.
Ça va être une boucherie, moi. Demain matin, dès que je me réveille, je vais regarder ce débat. Je crois que ça va être une boucherie.
Il était désarçonné déjà par ce remplacement, parce qu'ils avaient tout misé sur Biden, qui est complètement décati. C'était le cas, quoi. C'était affligeant. C'était même trop facile à la limite.
C'était trop facile.
Surtout que Trump se présente comme un gladiateur, un catcheur, capable d'anéantir le moindre adversaire. Là, il change. Oh, on le connaît. Il va avoir des propos hyper sexistes.
Oh, bah oui,
raciste.
On va quand même pas donner les rênes de la nation à une bonne femme.
Qui plus est noire.
Ouais.
Et en plus, il a sorti un truc il y a 15 jours, 3 semaines. Il fait, mais vous me dites qu'elle est noire, mais elle est indienne il y a pas longtemps. Comment ça se fait qu'elle soit noire?
Il découvre le métissage.
je vous jure. Et en plus, on ne parle même pas, et l'article n'en parle pas, des problèmes qu'on aurait, nous, ici en Europe, si Trump revenait, quoi. Vraiment. Mm-hmm.
Ouais,
réellement.
Bien sûr, ouais.
Il nous vomit, il a craché dessus. Emmanuel Macron a voulu faire à Miami en l'invitant au 14 juillet, en lui tapant dans le dos, machin, mais ce type, il est...
Non, mais il est infect, y compris vis-à-vis des Américains.
Mais oui.
Et d'ailleurs, en cas de défaite, dans cet article, Serge Halimi le précise, ils ont déjà préparé, si jamais ils perdent, et c'est des fraudes électorales.
C'est ça.
Oui. Il a déjà commencé à tweeter, enfin à utiliser X pour répandre des rumeurs comme quoi en Pennsylvanie, il y avait eu des fraudes électorales massives, etc. Et tout. Enfin, voilà,
il dit qu'il ne reconnaîtra cette élection que s'il gagne. Enfin, voilà, c'est
comme par hasard. Non, mais c'est.
Mais il y a un risque démocratique réel. Enfin, c'est ce qui est en ressort de l'article. Oui. C'est quand même qu'il y a un risque démocratique réel, parce que quand Trump avait perdu les dernières élections en 2001. Enfin, en 2020, du coup, mais il y avait eu l'insurrection du 6 janvier, où du coup, ses partisans avaient pris d'assaut le Capitole pour essayer de faire rendre des comptes à Mike Pence et aux différents membres du Congrès. Et il y a un vrai risque démocratique. Il a nommé 3 juges conservateurs à la Cour suprême.
Oui, effectivement. Ouais.
Voilà, pour être sûr de pouvoir couvrir ses arrières, ce qui a en partie marché. Il explique que, aux chrétiens conservateurs que c'est la dernière élection où ils devront voter.
Oui.
Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas d'élection dans 4 ans si jamais il est élu ou qu'il devient dictateur? Enfin, je ne sais pas.
Il envoie des messages dangereux et pour un pays comme les États-Unis, hein, quoi qu'on en dise, qui est la plus grande démocratie au monde, je pense.
C'est l'Inde.
Oui, c'est vrai, en termes d'habitants, effectivement. Mais de dire que s'il ne gagnait pas...
Deux modèles, en tous les cas.
La plus vieille démocratie au monde.
La plus vieille, oui. Mais qu'il y aurait un bain de sang. En fait, fait, il prépare ces gens. Il y a des milices hein, qui l'ont aidé, les ouais. gens qui sont allés...
Les Proud Boys, les...
Voilà, qui sont toujours là. Certains sont en prison. Il a dit, dès que j'arrive dans le bureau ovale, je vous gracie. Donc, il prépare ça, il prépare dans son discours. Et je pense vraiment que Kamala Harris va gagner. Et je pense qu'on risque d'avoir ça. Mmh. Et si la démocratie américaine, les élus américains ne tapent pas du poing sur la table comme... Pour le 6 janvier, ils n'ont pas envoyé, parce que c'était lui qui était président d'ailleurs, ils n'ont pas envoyé l'armée. Mmh. Il y a une armée fédérale qui est faite pour ça, il faudra le faire.
Ouais, bah ouais.
Il faudra mettre ces gens-là face à la force militaire. Quoi.
Et ce qui est inquiétant pour son camp, c'est que. Alors il a fait le vide, mais ils n'ont que lui à proposer.
Ils n'ont que lui, et c'est dingue.
Ils n'en ont pas un qui pourrait faire un peu moins tâche.
Il y a un nombre important d'élus démocrates, des républicains qui vont voter Kamala Harris et qui lui disent.
Oui,
et c'est assez étonnant cette campagne.
Même Dick Cheney,
qui était vice-président de George Bush et qui était l'un des chefs des néoconservateurs.
Ah oui, c'était un aigle de guerre terrible.
Ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Mais par contre, ils n'ont personne d'autre derrière. Quoi. Enfin, Trump, voilà.
C'est assez fabuleux et inquiétant surtout qu'il n'ait pas quelqu'un d'autre qui tienne un peu la route. Du coup, Bush, on va le trouver pas si mauvais que ça.
On va le trouver pas si
mauvais. Oui, alors que c'était
des... Ils les avaient entraînés dans une guerre où il y avait soi-disant des armes de destruction massive. Enfin, ils n'ont même pas trouvé un pétard.
Exact.
C'est
assez hallucinant.
C'est
dingue.
Hein. C'est comme Sarkozy qui nous a fait regretter Chirac. Quoi.
faut le dire vite.
Mais... Et alors on ne sait pas encore si Macron va nous faire regretter Sarkozy.
Oui c'est ça.
enfin bref.
Voilà. Mais surtout qu'il y a dans le risque démocratique qui est soulevé aussi par Serge Halimi, il explique aussi qu'une grande partie de l'électorat Trump est très méfiant vis-à-vis de l'institution.
Mais c'est ça.
De l'État en fait. Mm-hmm. Des institutions américaines. Mm-hmm. Ils ont boycotté quand il y a eu les mesures de confinement vis-à-vis du vaccin, enfin vis-à-vis du Covid-19.
De la Covid.
Ils ont pris d'assaut le Capitole. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui font que il y aura un nombre de soupçons qui planera sur les élections présidentielles dans tous les cas si jamais Kamala Harris gagne. Et il est fort possible que peut-être que ces soutiens prennent les armes, enfin les soutiens de Donald Trump prennent les armes pour pouvoir essayer de le réinstituer. C'est vraiment dangereux quoi. La situation est dangereuse.
On en a déjà parlé ici. Un pays où les armes à feu sont rois.
Oui, bien sûr.
On n'y touche pas, hein. Malgré, il peut y avoir... Enfin, ils ont eu un nombre incalculable de tueries dans des centres commerciaux, dans des écoles, tuant donc leurs propres enfants. Eh ben non, malgré tout, quand même, il vaut mieux se armer.
Il y a la NRA qui est le lobby, voilà, chercher le mot. Merci. Le lobby le plus puissant aux États-Unis et qui dit... Et ça passe, ça, chez les Américains, de dire, mais la meilleure façon de contrer les gens, les fous qui viennent tuer nos enfants, bah, c'est d'armer nos enfants. Voyez-vous, acheter des armes à vos enfants, ou mettez des armes dans des écoles. Enfin, on est quand même dans un pays de fous, en fait. Et Serge Halimi, hein, tu disais tout à l'heure, oui, il était directeur jusqu'en 2023, jusqu'à janvier 2023. D'accord. Là, il est journaliste de la rédaction, mais il n'est plus directeur de cette rédaction.
D'accord. Okay.
Mais en tout cas, c'est un très grand connaisseur des États-Unis. Oui. Il y a vécu longtemps et il connaît vraiment la vie politique là-bas et la vie sociale.
Oui, c'était tout. C'était la fin de mon article.
Bah, voilà, donc débat. Regardez ça en replay demain. Je crois qu'il y a plein de chaînes françaises qui a diffusion directe, donc avec une traduction, je pense. Ça devrait être drôle, je pense. Ça devrait être drôle, et puis surtout, croisons les doigts pour que Kamala Harris gagne cette élection, parce que c'est aussi pour le monde entier, en tout cas.
Oui,
voilà.
Effectivement.
Merci, Victor. On reviendra tout à l'heure à notre article sur le panafricanisme.
À bâton rompu, avec Hassan Kerim.
Et avec Victor et avec Henri. Henri, le dossier du mois, c'est sur la guerre au Proche-Orient, celle que livre Israël au Hamas dans la bande de Gaza, au Hezbollah au sud Liban, et en fond, la crainte d'un conflit entre Israël et l'Irak, et l'Iran.
Et l'Iran.
Et le titre du dossier, c'est « Proche-Orient, l'abîme ».
Et oui, l'abîme dans cette région du monde qui est secouée depuis tant de temps, depuis 75 ans au moins. C'est pour ça d'ailleurs que ce dossier débute par un article d'Alain Grech, « La guerre la plus longue ». Et effectivement, et tu le disais à l'instant Hassan, ben le risque c'est l'extension à une guerre régionale et qui impliquerait l'Iran. Et donc dans ce cas-là, ça ne devient plus un petit conflit régional, ce n'est pas un petit conflit régional de toute façon, mais ça pourrait gagner toute la région et ça c'est pas une bonne chose. C'est ce qui fait que ça a poussé un peu Joe Biden, quand il était encore un peu plus aux affaires aux États-Unis, à proposer un plan en trois phases, nous explique Alain Grech. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, il a proposé un cessez-le-feu de 6 semaines, une libération de tous les otages d'un côté comme de l'autre, et un plan massif de reconstruction du territoire palestinien. Mais évidemment, Benjamin Netanyahou, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici et dans le diplo. Et il ne veut pas de ça, il ne veut pas de paix de toute façon. Il veut poursuivre la guerre, c'est comme ça qu'il se maintient au pouvoir. C'est assez impressionnant.
Tout à fait.
Que quelqu'un reste au pouvoir en consolidant son pouvoir sur l'horreur.
Et en tuant des enfants.
Et en tuant des enfants, des hommes, des femmes, des personnes âgées. Mmh. Et effectivement, il se tourne un peu vers le Liban pour étendre le conflit à ce niveau-là. Et il espère pousser le Hezbollah à une escalade qui serait une escalade hors de contrôle et, comme on le disait à l'instant, entraîner une guerre contre l'Iran et donc une intervention inévitable des USA à ce moment-là. Alors donc, cette guerre, elle est abominable. On n'arrive même pas à connaître le chiffre à peu près exact de morts. Il y en a au moins 40 000 à Gaza. Il y a au moins 91 000 blessés. Et comme le précise Alain Grech, eh bien c'est l'un des 5 conflits les plus meurtriers depuis le début du siècle. Triste record. Il y a en moyenne... Et c'est horrible ce chiffre, 4000 morts par mois.
Ouais.
Donc on veut détruire, tout simplement détruire. Si on pouvait, si Israël le pouvait, il raserait toute la Palestine et tous les gens qui y habitent. Les destructions immobilières sur la bande de Gaza sont plus importantes que ce qu'ont connu les villes allemandes au moment où les Alliés ont bombardé les villes allemandes dans la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est impressionnant. Et 35% au moins du parc immobilier a été détruit. Et on retrouve des termes qu'on avait oublié ou même qui ont été créés pour l'occasion, triste inauguration, on parle d'urbicide. Mmh. Un urbicide, c'est tuer une ville. Et c'est ça, il n'y a qu'à voir les images. D'ailleurs, il y a, je crois, le festival de photos à Perpignan. Non
c'est ça, c'est hein ça.
Qui a primé plusieurs photographes palestiniens. Mmh. Alors, si j'ose dire, c'est un peu facile parce que... Ils ont fait des photos saisissantes qui valent plein de discours. On se dit, mais est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vit là ? C'est assez impressionnant. Mmh. Donc c'est un urbicide. Mmh. On tue une ville. Et donc c'est l'objectif de Benjamin Netanyahou et de ses partisans, c'est-à-dire il faut rendre Gaza inhabitable pour provoquer un exode palestinien. Mmh. Où est-ce qu'ils iront ? On ne sait pas, puisque l'Égypte ferme ses frontières. Voilà, et donc ils sont cernés. Donc le Hamas a quand même, malgré tout, malgré toutes ces horreurs, le soutien d'une partie encore des Palestiniens. Mmh. Mais Alain Grech, opportunément, se pose la question, mais quand les canons se seront tus, Qu'est-ce qu'on fait ? Et il y aura toujours des Palestiniens dans cette région-là du monde. Comment ils vont faire ? C'est une question qui démontre, si besoin en était, que la guerre n'est jamais une solution. Elle empire les solutions que l'on pourrait trouver.
Et cette position-là de la fameuse... Comment ils appellent ça, le truc international, l'opinion internationale, avec des pays qui ont dit dès le début, effectivement, le 7 octobre, il s'est passé... un truc dingue par le Hamas, de dire soutien total à Israël, allez-y, servez-vous, faites comme vous voulez. Mmh. Au bout d'un moment, il y a eu des images quand même, et des journalistes, hein, je me permets de le dire, beaucoup de journalistes tués à Gaza.
Oui.
Mais on a eu des images et nos dirigeants occidentaux qui continuent à dire oui, mais Israël a le droit de se défendre. Mais c'est de la défense, ça, de bombarder une ville, de faire un herbicide et de tuer.
Ils vont se venger à partir de combien de morts?
Ouais, et je parlais, ouais. Ouais, c'est ça. Et je parlais d'enfants tout à l'heure parce que.
Surtout qu'en plus, à chaque fois, il y a le. Comment dire? Ils utilisent le fait que, soi-disant, ils vont libérer les otages, alors que l'armée israélienne elle-même a déjà abattu plusieurs otages.
Oui. Ce qui a valu, d'ailleurs, un mouvement, beaucoup de manifestations ces derniers temps, parce que, effectivement, la position de Netanyahou, il bombarde tout, alors, y compris des otages.
Mais oui, c'est ça.
Voilà. Et donc, justement, dans ce dossier, on l'évoquait un peu à l'instant, il y a un article aussi de Sylvain Sipel, la société israélienne entre hubris et désespoir. Mmh. Effectivement, comment ça se passe en Israël côté israélien. Et donc, déjà, l'attaque du 7 octobre, l'attaque du Hamas, a fait voler en éclats un mythe qui voulait que l'armée israélienne était surpuissante et qu'elle allait immanquablement protéger sa population. Mmh. C'est pas le cas. Donc, effectivement, les Israéliens, première réaction, ils sont pris entre un désir de vengeance. Ils voient ce qu'on leur fait voir, ce qu'ils veulent bien voir. Donc, dans cet article, Sylvain Kepel parle d'un effroyable aveuglement, c'est-à-dire il y a un lavage de cerveau qui fait que peu à peu, Israël s'enferme, s'enfonce dans une guerre qui devient ingagnable de toute façon. Et donc, on avait constaté, même avant ces événements, une droitisation de la société israélienne, avec beaucoup d'Israéliens qui épousent malheureusement ces idées-là, en même temps que leur gouvernement, ils précisent que leur gouvernement n'a pas d'autre choix que de poursuivre la guerre. Mais jusqu'où ? Et donc, ce qui est inquiétant, Sylvain Kepel parle d'une mouvance messianiste qui s'est considérablement développée pour faire fleurir un judaïsme hyper-nationaliste. Et ces messianistes, ça aussi c'est glaçant, usent de la formule « parfois il faut aider Dieu à agir ».
Oh mon Dieu, quelle horreur.
C'est-à-dire que, voilà, ils sont plus forts que le Dieu qu'ils sont censés prier. Mmh. C'est assez impressionnant. Alors, dans cette société israélienne, il faut dire aussi que ce qui est également inquiétant, c'est qu'il y a une gauche israélienne, mais c'est 1%.
C'est 1%, exactement. C'est
1%.
C'est... Oui, ouais. Mais j'ai lu dans l'article.
C'est-à-dire qu'ils ont du mal à se faire entendre et même à la limite, ils se taisent parce qu'ils ont peur du retour de bâton. Alors, tu l'évoquais aussi, Hassan, effectivement, les images quand même, on reçoit beaucoup d'images. Plus impressionnantes les unes que les autres. Et de plus en plus, au niveau international, Israël suscite quand même un rejet plus ou moins spontané de beaucoup d'observateurs, y compris américains, qui eux-mêmes parlent de génocide. Et donc, même les Israéliens sont dans une telle peur qui a été entretenue par Netanyahou et ses compères, qu'ils craignent même une disparition de leur pays. C'est assez impressionnant. Et en marge de cet article du Diplo, il y a deux, trois dates, il y a même beaucoup de dates qui sont rappelées sur 10 mois de guerre, depuis l'attaque du 7, du attaque terroriste de la part du Hamas, depuis le 7 octobre donc 2023. Il est rappelé quand même que le 29 décembre, l'Afrique du Sud a saisi la Cour de justice internationale pour voir Israël donc jugé sur ces faits. Et le 20 mai, le procureur de la Cour internationale de justice a requis un mandat d'arrêt contre Netanyahou et contre Yoav Gallant, qui est son ministre de la Défense, qui est encore plus impressionnant et inquiétant que Netanyahou, c'est dire. Donc, alors, il faut le dire aussi pour être complet, que la Cour internationale de justice a également lancé des mandats d'arrêt contre certains dirigeants du Hamas.
Oui, aussi,
pas
ouais.
que vis-à-vis d'Israël.
Mais ce qui est normal, ce qui est normal,
donc,
réellement.
Alors, dans cette société israélienne qui est évoquée dans cet article de Sylvain Kepel, il y a aussi un article qui fait suite de Ariane Bonzon. Oui. Nous ne sommes pas traités comme des citoyens. Là, elle donne la parole, vous l'aurez compris, aux Palestiniens qui essaient de vivre en Israël, qui sont d'ailleurs israéliens. Eux-mêmes le disent, on est israélien de citoyenneté et palestinien d'identité. Et donc, certains ont voulu manifester, mais enfin, c'était assez timide. De toute façon, ils en ont été empêchés, comme ça s'est fait. Mais cette guerre, voilà, qui n'est pas si récente, je parlais de 75 ans tout à l'heure. Hein. En 1948, 700 000 Palestiniens ont fui ou ont été expulsés de leur terre natale. Et donc, Netanyahou, d'ailleurs, en a profité en 2018 pour faire voter une loi fondamentale qui définit Israël comme l'État-nation du peuple juif. C'est-à-dire la place que l'on laisse, ou le peu de place que l'on laisse aux Palestiniens. Et donc, les Arabes israéliens, eh ben, ils font profil bas, ils manifestent peu quand il s'agit de manifester, par exemple, contre le progrès de réforme judiciaire de Netanyahou. Donc ils essaient de composer et d'être le plus anonyme possible.
On exige d'eux d'une fidélité, de le dire en plus dans la rue, une fidélité à Netanyahou, que je ne comprends pas qu'ils puissent aller dans la rue en disant on est pour Netanyahou contre, et pour le massacre de leurs frères quoi, à Gaza.
Et donc, Ariane Bonzon explique que les Palestiniens, quand même, rasent les murs, en quelque sorte.
Bien sûr.
Même si en 2022, il est précisé que 40% des familles arabes, par exemple, notamment, vivent sous le seuil de pauvreté. Et que, donc, le spectre politique, évidemment, comme je viens de le dire à l'instant, qui est de plus en plus à droite, fait que ces personnes, évidemment, de moins en moins envie de se faire entendre. Et dans ce dossier du Diplo, je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser la parole à Victor, mais il est utilisé quelque chose d'extrêmement perfide et d'inquiétant également. C'est Angélique Mounier-Kuhn nous en parle, c'est anéantir l'éducation. Tout à l'heure, on parlait du terme ubéricide, et là, on parle de scolasticide. C'est-à-dire qu'on anéantit tout ce qui touche l'éducation. Évidemment, vous l'imaginez, pas de rentrée scolaire. Enfin, quand vous voyez l'état des bâtiments, c'est pas étonnant. Pour 625 000 élèves étudiants palestiniens et 22 000 enseignants. Aucune structure n'est épargnée par le déluge de bombes qui s'abat sur Gaza. Les établissements scolaires, même administrés par les Nations Unies, sont bombardés comme les autres. Et donc, évidemment, à chaque fois, on connaît la réplique. Tel Aviv précise que ces structures sont bombardées parce qu'elles, évidemment, elles abritent des terroristes. Donc, selon les experts de l'ONU, ces attaques ne sont pas des incidents isolés et on vise à détruire les fondements même de la société palestinienne. Et donc, c'est là qu'on crée ce terme, là aussi glaçant, scolasticide, c'est-à-dire extermination éducative.
Oui, c'est ça.
Voilà. On veut en anéantir la Palestine instruite. Et donc, comme le disait un directeur d'école à la journaliste, eh bien, on peut rester affamé, mais on ne peut pas rester ignorant.
Mais non.
Angélique Mounier-Kuhn, dans son article, se pose la question, que deviendront ces enfants privés de manuels, de manuels scolaires, bien sûr? Eh bien, ils deviendront des combattants du Hamas.
Bien sûr, évidemment.
Voilà.
Évidemment. Merci à toi, Henri.
Je laisse un peu la parole à Victor, bien volontiers. Juste, il y a également un article de Anne-Cécile Robert qui termine ce dossier sur la justice internationale, qui est très intéressant, qui a déclaré, donc, dans sa sentence du 19 juillet 2024, la riposte israélienne est illégale, discriminatoire et abusive. Voilà.
Eh bien. Très très bien, à lire hein, vraiment dans ce dossier est absolument parfait. Abattoir Rompu, on va finir l'émission avec Victor après ceci.
Abattoir Rompu, le magazine de l'actualité Alter International.
Alter International, hein, tu fais ça autrement s'il te plaît.
Ah d'accord.
On va parler de panafricanisme maintenant.
C'est ça. En Afrique de l'Ouest, le panafricanisme rime désormais avec dégagisme. C'est un article de Rémi Carayol qui commence sur une date, le 2 avril 2024. Alors, je préfère annoncer de suite, je vais écorcher des noms.
Bon, vas-y.
Alors, monsieur Bassirou Diomaye.
Diomaye Faye. Ouais, le nouveau président du Sénégal.
Et prêtre serment en tant que nouveau président du Sénégal.
Tout à fait.
Lors de sa campagne, il se disait héritier d'un panafricanisme de gauche et luttant pour un Sénégal libre.
Tout à fait.
Donc c'est plutôt, voilà, c'est plutôt intéressant.
Alléluia.
Alors, ben oui. Mais lui, je le crois, j'espère qu'il va réussir. Il ne faut pas qu'il échoue.
Mais du coup, qu'est-ce que c'est le panafricanisme? Parce qu'on veut dire que c'est
de gauche.
Mais oui,
en plus.
Oui. Alors, selon l'auteur de l'article, c'est un mouvement d'émancipation politique et culturelle des peuples africains et afro-descendants contre les discours colonisateurs et racistes des Européens. D'où ça vient? Alors, selon le sociologue Saïd Bouamama, il y a un premier âge qui, en fait, vient directement des nouveaux esclaves affranchis noirs américains qui cherchent à s'émanciper de la domination blanche. On a deux figures qui sont très importantes à ce moment-là. On a l'universitaire W.E.B. Du Bois, qui militait pour une égalité des droits et pour la défense de la décolonisation en Afrique. Et on a le militaire jamaïcain Marcus Garvey, que je ne connaissais que par les chansons de reggae, hein, parce que souvent, il y a beaucoup de chansons de reggae qui font hommage à Marcus Garvey, qui lui était pour un retour au continent africain, en fait, des populations qui avaient été déplacées de force par les Occidentaux aux États-Unis et en Jamaïque. Lui, il préconisait du coup ce qu'on appelait un sionisme noir, c'est-à-dire l'idée que les Noirs devraient revenir sur leur terre natale pour pouvoir s'y installer. Après, on a un deuxième âge du panafricanisme, c'est à partir des années 50-60, avec la réappropriation par des mouvements de libération nationale. Alors là, il y a des noms qui sont très connus, il y a Frantz Fanon, il y a Kwame Nkrumah, il y a Patrice Lumumba, bien sûr, et Thomas Sankara, enfin voilà, des grands noms de la décolonisation, qui préviennent du risque néocolonial, qui se déclarent non alignés, mais qui ont malgré tout une tendance socialiste révolutionnaire. Mais le problème, c'est que ces idéalistes seront tour à tour évincés du pouvoir ou assassinés les uns après les autres.
Tués, c'est vrai.
Ouais. En général d'ailleurs par leur colonel ou leur lieutenant,
bien sûr,
et qui prennent le pouvoir derrière et qui décident de faire du néocolonialisme à fond les ballons avec les anciennes puissances dominantes. Après la chute du mur, tout le monde se réclame du panafricanisme, même Kadhafi. Et on a la création.
Pourquoi même?
Bah, je sais pas, parce que c'est
Non, mais il a financé. C'est ça, le panafricanisme à cette époque-là avait besoin d'argent. Il y a Kadhafi, parfait.
Sponsor.
On a la création du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, le NEPAD, qui est de tendance néolibérale et qui en fait a vocation à créer un espèce de marché commun en Afrique noire.
C'est zéro, le NEPAD.
Ouais.
Je connais des gens qui travaillent pour cette merde.
Ah bon?
Ouais, j'ai des copains néolibéraux africains en plus. Ouais, c'est une merde. Bon, bref, fini.
Et après, il y a ce que Saïd Bouamama appelle le troisième âge, c'est-à-dire un renouvellement par les milieux intellectuels africains à partir des années 2000, qui se développe par les réseaux sociaux, qui est confus et hétérogène et qui se retrouve quand même autour d'un refus des élites.
C'est ça.
Donc on a Yann Amar au Sénégal, on a Lucha en RDC, enfin en République démocratique du Congo. Et globalement, ce mouvement réclame donc la fin du RSA, le départ des troupes européennes et l'acquisition d'une vraie indépendance pour les pays africains vis-à-vis de leur ancienne métropole. Le problème, c'est que ces discours du coup intellectuels de gauche sont réappropriés par les junts militaires en place, enfin qui se sont nouvellement mis en place au Mali, au Burkina Faso ou au Niger. Et on a une tendance nationaliste et autoritaire, voire fasciste, avec une vague d'arrestations de militants opposés au pouvoir, etc. Et, tout. Voilà, ça permet de s'assurer le soutien des populations, mais là où ça ne correspond pas vraiment aux théories panafricanistes existantes, c'est qu'il n'y a pas de remise en cause de la structure même de l'État. C'est toujours la bourgeoisie nationale qui est au pouvoir, il n'y a pas de remise en cause de partenaires comme le FMI ou ce genre de choses. Et au final, la junte militaire s'accommode plutôt bien du néolibéralisme, tout en réclamant du coup le départ des anciennes puissances coloniales pour se faire de nouveaux alliés, notamment principalement la Russie et la Chine, qui voient là un nouveau territoire à explorer pour pouvoir assurer leurs intérêts.
C'est exactement ça, tu l'as bien expliqué.
Oui, effectivement. Dans un premier temps, le FMI, la Banque mondiale, étaient un peu inquiets. Ils ont dit, ouais. C'est qui ces zozos qui arrivent ?
C'est ça.
Et puis finalement, ils ont dit, tiens, ils sont en train de nous faire un beau marché néolibéral absolument. À l'échelle du continent.
Mais absolument.
Donc c'est super.
Mais ouais, c'est super, vraiment. Mm-hmm. C'est exactement comme ça se passe. C'est bien pour ça que, hors micro, je te dis souvent que je les vomis, quoi. C'est sous-lieutenant là. Ouais. Ils sont tous riches maintenant. Ils sont arrivés au pouvoir il y a 2-3 ans au Mali. Ils sont riches à millions. Celui du Burkina Faso, il est un petit peu moins parce qu'il y a eu Sankara, vraiment. Donc les gens ne comprendraient pas. Et puis les gens de la troupe ne comprendraient pas. Mais par contre, il est super dans ce palais qui fait combien de pièces. Enfin, voilà quoi. Mais, et au Niger, alors là, c'est des analphabètes, des imbéciles finis. Et puis voilà quoi. Donc. Bon, bref, j'y retournerai pas en Afrique. Voilà, fini.
Et puis, t'es trop vieux maintenant.
Ben oui, c'est ça.
Pour être président, il faut avoir 44 ans.
Mais oui, c'est ça.
Donc, comme au Sénégal. Ouais.
C'est ça. Bah, c'est tout. Ouais. L'auteur de l'article finit par expliquer que cette dérive autoritaire et identitaire fait appel à une forme de fétichisme de l'Afrique antécoloniale, selon Saïd Bouamama, qui en fait essaye de faire revivre un passé glorieux qui n'a pas réellement bien existé.
Ouais. Et tu le connais, hein, Saïd ?
Ah oui, Saïd Bouamama, je le connais. Moi, je l'ai fréquenté pendant mes études en sociaux à la fac du coup de Lille. Mmh. Et il n'était pas enseignant, mais on lisait ses articles, ses livres, ses trucs comme ça.
Ouais, c'est pas mal ce qu'il écrit. Ouais.
Il était notamment membre du collectif Manoukian, qui était un collectif d'intellectuels qui cherchait à lutter contre le néolibéralisme, le racisme, le sexisme et l'homophobie, qui avait sorti un dictionnaire des dominations qui est super bien, je vous le conseille, hein, si jamais vous avez le temps. Petit dictionnaire des dominations par le collectif Manoukian, c'était très très bien. Ouais. Et je l'ai rencontré, ce type-là, c'était un type brillant.
Il est brillantissime. Ouais,
D'ailleurs, ça m'a fait marrer, parce que récemment, je l'avais vu dans la chaîne YouTube à gauche, et parce qu'il avait fait un truc sur le racisme, où il expliquait qu'en fait, les théories même du racisme ne sont pas liées à la couleur de peau, c'est en fait lié à la notion de groupe in et out.
Oui.
Et il prenait pour exemple, en fait, les premières formes de racisme qui ont été appliquées en France, c'était vis-à-vis des Bretons. Il est interdit de cracher par terre et de parler breton. Les Bretons étaient appelés des ploucs. Et on leur imposait du coup la langue française et les institutions françaises à ce peuple-là, qui était un peuple autochtone. Et qui a malheureusement pas vraiment réussi à s'en défendre, comme on peut le voir à l'heure actuelle, même si jamais il y a une revivance du breton à l'heure actuelle, qui est maintenant aussi enseigné à l'école. Il faut quand même avouer qu'il n'y a quand même plus grand monde en Bretagne qui parle breton et qu'ils ont été quand même bien francisés.
Oui, oui. De toute façon, celui qui est différent, même si la différence n'est pas énorme, il est tout de suite mis à l'écart du groupe. Mmh. Ce qui est dommage, j'en reviens à cet article, on pourrait dire que tous ces nouveaux hommes politiques, ces mouvements comme le YAM, etc., on pourrait se dire, tiens, ils vont s'émanciper du joug colonial. Super. Mais non, ils refont les mêmes choses. Ils vont profiter du gâteau et ils s'en contrefichent de la condition féminine, des questions environnementales. Ah non, c'est pas du tout dans leur programme. Clairement. Et quand il y a du
alors que c'était dans le programme des révolutionnaires des années 70,
c'est complètement oublié. Ouais. Et puis entre deux joues, alors je sais pas, mais la milice Wagner, moi, elle m'inspire aucune confiance.
Mais non, évidemment.
Quand on a recours à ces services, en général, ça ne fait pas dans la dentelle. Ouais,
évidemment. Merci à vous deux. Rendez-vous mois prochain pour décrypter le diplo du mois d'octobre. On va terminer la semaine prochaine. La semaine prochaine, retour de Steven. Il était dans le rassemblement là, samedi à Orléans contre le non-respect de résultats des urnes par Emmanuel Macron. Il a du son, il viendra nous passer ceci. Évidemment, oui, hein, le moment était la rébellion, hein, la révolte, les gens. Hein. C'est le titre aussi d'un morceau du reggae man français Naaman, son dernier album sorti en 2022. Là, il vient de refaire une. Il a retravaillé ce titre. Ça s'appelle Time is to Rebel. Le temps est à la rébellion. Passez une belle soirée, une belle semaine.
Bonsoir.
Revenez mardi prochain à 19h sur Radio Campus Orléans, Radio Campus Tours. À Orléans, Ride On dans quelques petites minutes.
Burning hard and them just can't put it off. Police brutality worldwide, violence only making it tough. Never civil surrender, that's why we're here. To get us stronger than fear. Never civil surrender. Too many rebels trying to live honorable. Aye, now we know the strength, we know the cost, we know the power. We know.